un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 17 juin 2024 et Jean-Louis, au micro de Radio Libre en Périgord, vous propose cette chronique du groupe Fred Zeller, dans laquelle nous allons commencer par prendre connaissance de la déclaration de la libre pensée que je vous lis donc maintenant. Un seul impératif pour défendre la démocratie, battre l'extrême droite et ses alliés directs et indirects, chasser les macronistes responsables de leur expansion, c'est le même combat. Nul ne peut en douter désormais. La situation que nous vivons depuis des années, avec le point d'orgue des élections européennes et ses résultats, ressemble de plus en plus à la montée des périls, c'est une expression utilisée donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Avec le même scénario qui se profile, développement important de l'extrême droite, Front populaire, Vichy avec en toile de fond qui organise les choses, la guerre qui vient et qui est déjà là. L'histoire nous mord la nuque. Nous allons vivre ce que nos aînés ont connu, mais nous avons appris. Il y a eu Vichy et la guerre, car le Front populaire n'a pas voulu rompre avec le capitalisme. Nous avons déjà vu le film. Il est mauvais et la fin ne nous plaît pas du tout. On va vouloir nous jouer un scénario sur la forme et les hommes, alors que la seule vraie question sera le fond des choses, la rupture avec le système sous toutes ses formes. Nous rappelons que la libre pensée était partie prenante du Front populaire en 1936 et que très rapidement elle en est sortie du fait de la trahison des revendications laïques. André Lorulot, animateur inlassable de la libre pensée, a alors constitué le Front laïque. La libre pensée ne participera à aucune coalition électorale, car si elle veut poursuivre son combat pour la défense de la démocratie, de la République et de la laïcité, elle doit garder en toutes circonstances son indépendance, quel que soit le gouvernement, ce que notre regretté président de la libre-pensée, Marc Blondel, dénommait « sa liberté de comportement ». Force est de constater que ce que disait la libre-pensée depuis des mois, notamment après les lois sécurité globale, séparatisme, immigration, ajoutées à la suppression du droit du sol à Mayotte, s'est vérifié pleinement. L'extrême droite est déjà au pouvoir. Elle s'appelle la Macronie. Exceptionnellement, car la situation est exceptionnelle à plus d'un titre, la libre pensée qui se refuse traditionnellement à donner des consignes de vote, estimant que les électeurs sont assez grands pour se déterminer librement, déclare aujourd'hui « Il faut battre l'extrême droite, ses alliés et la Macronie, car c'est la même engeance ». Pour concrétiser la volonté de rupture, sur son propre plan et ne se substituant pas aux partis politiques dont la responsabilité est de gouverner sur un programme. La libre pensée propose trois revendications qui lui semblent donner un contenu de rupture sur le plan national. Premièrement, plan de sortie du financement public de l'enseignement privé pour l'abrogation de la loi Debré et des lois anti-laïques. Nous rappelons que la Fédération nationale de la libre pensée a élaboré un tel plan de sortie qu'elle a proposé à l'ensemble des composants du mouvement laïque et qui est actuellement en discussion avec d'autres propositions allant dans le même sens. Une fois les élections législatives passées, la libre pensée fera d'autres propositions pour matérialiser concrètement le combat laïque pour l'abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques. Deuxièmement, réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Nous nous appuierons sur les réalisations déjà obtenues. 2000 communes ayant pris position pour, 31 conseils généraux et 6 conseils régionaux. Et bien sûr, la proposition de loi votée à l'Assemblée nationale. La libre pensée fera des rassemblements du 11 novembre, un grand moment de rassemblement, massivement unitaire, pour avancer dans cette voie. Troisièmement, soutien au projet de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Il faut obtenir l'aide active à mourir avec le plein respect des directives anticipées en application du principe du plein respect de la liberté de conscience des personnes. La Fédération nationale de la libre pensée propose donc ces trois revendications démocratiques à l'ensemble des candidats aux élections législatives pour qui la démocratie doit être établie et rétablie en rompant avec le système actuel pour qu'ils les intègrent dans leur programme. Elle soumet aussi à la réflexion de chacune et de chacun son analyse sur l'extrême droite, jointe à cette déclaration « Il faut battre l'extrême droite, ses alliés et ses promoteurs macronistes ». Voilà, donc c'est une déclaration qui date du 14 juin dernier. Et donc l'analyse qui est annoncée à la fin de cette déclaration, eh bien, je vous propose maintenant donc de la lire à propos de l'extrême droite. La Commission administrative nationale de la Fédération nationale de la libre pensée a constitué en son sein un groupe de travail sur les questions de fascisme, extrême droite, bonapartisme, etc. L'annonce de la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron au soir des élections européennes du 9 juin a donné lieu à cette réflexion que nous vous livrons. La Ve République a été faite et est faite pour garantir l'ordre immuable. Ces institutions sont adaptables et compatibles à toute force politique qui veut que l'ordre immuable, clérical, soit maintenu. Ce fut le cas avec les gaullistes comme avec la gauche plurielle ou non, socialiste, mais pas seulement. La Ve République peut parfaitement être utilisée par l'extrême droite. Les déclarations de Marine Le Pen sur la capacité du RN à gouverner l'attestent. La décision de Macron d'ouvrir la voie à une cohabitation avec le RN en est une autre preuve. Nous avons souvent dit que le macronisme était un bonapartisme sans armée. Il a trouvé son armée, sa garde prétorienne, dans l'état-major RN. Drôle de barrage. Nous nous trouvons avec une droite française revenue à sa matrice traditionnelle, l'État, le capital et la haine de l'autre. Hier antisémite, elle est aujourd'hui unie par la haine des musulmans, de Zemmour à Ciotti. Macron n'a que faire de la lutte contre ceci ou contre cela, pas plus qu'il ne se soucie d'aucun sujet. Il dit tout, n'importe quoi et son contraire en même temps. La méthode du « en même temps » est une forme roublarde et grossière de chercher à nier les antagonismes de classe, ce qui est la logique de la Ve République. Elle partage là l'objectif fasciste de remplacer l'antagonisme de classe par un totalitarisme du corporatisme. Candidat au barrage de l'extrême droite en 2017 et 2022, il a mis en place les lois les plus liberticides de ces dernières années et joué la course à l'échalote avec elle sur la question migratoire. Son but, comme Thatcher, c'est de mettre à terre le mouvement social. S'il ne peut le faire seul, il le laissera faire par l'extrême droite, ayant préparé l'arsenal législatif répressif ad hoc. Ces réformes sont revenues sur les conquêtes du CNR, Conseil national de la résistance, et du Front populaire. Le Rassemblement national au pouvoir reviendra au pétainisme. La Ve République a toujours eu une nature bonapartiste et elle est ainsi spécifiquement plus appropriée pour tout groupe autoritaire, de Macron à l'extrême droite. La seule chose qui compte pour lui est de rester au pouvoir, la Ve République rendant possible toute forme de cohabitation et le lui permet. Sa décision de dissolution sur ce plan ressemble à un coup d'État, mais à la Macron, mal fait, mal conçu, mal ficelé et pouvant se transformer en son contraire. Insatisfait des résultats, Trump a lancé ses troupes à l'assaut du Capitole, siège de l'Assemblée. Insatisfait des résultats et n'ayant pas de troupes à sa disposition, Macron dissout l'Assemblée. Le parallèle est frappant. Peu importe avec qui Macron gouverne, peu importe qui préside à l'Assemblée nationale, les colères de Glucksmann et de Yael Braun-Pivet, hier pièce centrale du dispositif, le lendemain rejetées parce qu'inutiles, sont éclairantes. Ce qui compte, c'est le CAC 40, le capital, ses pompes et ses œuvres. D'ailleurs, les résultats de la Bourse de Paris, comme ceux des taux d'emprunt de la France, ont immédiatement et fortement réagi à la claque subie par leurs représentants. Il faut que rien ne bouge. La Ve République est faite pour cela. Le processus est maintenant à son terme. La vérité de la Ve République est dans le macronisme. De Gaulle voulait être au-dessus des partis. Macron a vidé de leur substance les partis, qui ne demandaient que cela d'ailleurs. Cet ordre immuable a eu très vite son credo et son confiteor, la loi Debré, finançant les écoles privées essentiellement catholiques, 1959, élaborée par le gaulliste Debré et le socialiste Bouloche, maintenue par tous, absolument tous les gouvernements de la Ve République. Les turpitudes récentes d'AOC n'ont fait que jeter une lueur grotesque sur cette logique scolaire du séparatisme des riches. Jean-Michel Blanquer, par ses réformes brutales, a accru les inégalités entre l'école publique et l'école privée. La loi Debré est le mystère révélé de la Ve République. L'ordre immuable est garanti par le Bonaparte au sommet de l'édifice et par la mise au pas des consciences. Le SNU n'est que le volet militariste de cette opération, comme la loi séparatisme en est le volet juridique. Tel est l'ordre voulu par De Gaulle et ses successeurs, tous ses successeurs, des institutions qui peuvent servir et qui servent à tout le monde, peu importe les idées proclamées. Ce qui compte, c'est que l'ordre immuable reste en place. Et cette déclaration date également donc du 14 juin. Alors, et ça ramène finalement aux questions de la loi Debré, je vais maintenant passer sur un sujet qui nous a été communiqué par la Fédération de la Libre Pensée des Bouches-du-Rhône. Et donc voilà ce que nous disent nos amis donc des Bouches-du-Rhône. Chers amis, chers camarades, la Libre Pensée souhaite attirer l'attention des défenseurs de l'enseignement laïque sur le projet global de réaménagement d'Euroméditerranée, dont l'objet de créer dans le 15e arrondissement de Marseille 14 000 logements supplémentaires dans la zone pour y loger 30 000 habitants, prévoit désormais d'implanter un collège jésuite dénommé symboliquement Loyola, sous contrat avec l'Éducation nationale. Ce projet est porté par l'association Ignès de Loyola, Éducation elle, en abrégé, la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire les Jésuites, et l'École de Provence, pour un montant de 19,5 millions d'euros, en provenance en majorité de fonds privés, courant jésuite et CMA-CGM, selon le site Mad in Marseille. Le collège jésuite Loyola aura une superficie de 4200 m² au sol, il pourra accueillir jusqu'à 500 élèves. La Fédération départementale de la Libre Pensée et ses groupes de Marseille constate que cette construction d'un collège privé dans le secteur d'Arinque, déjà sous-doté en établissement public, relève d'un choix des pouvoirs publics. Il s'est fait à la place de la construction d'un collège public dont la nécessité était posée depuis longtemps, notamment en raison d'une forte densité de population que la construction de 14 000 logements ne pouvait qu'amplifier. En 2017, Mme Martine Vassal a fait voter par le Conseil départemental un projet négocié avec le diocèse de Marseille pour la construction d'un collège privé innovant, c'est la formule utilisée, sur un terrain rue de Casmajou, dans le 15e arrondissement, initialement destiné à un collège public international. Cette décision, votée à l'unanimité, a été soutenue et votée à son tour par le conseil d'administration d'Euroméditerranée, incluant l'État, la région, le département et la commune, qui a vendu le terrain à l'École de Provence, la Cordère, abandonnant ainsi le projet de collège public. En avril 2021, le Conseil départemental a voté une garantie d'emprunt couvrant 100% du prêt de 10 millions d'euros contracté par l'École de Provence et en juillet, une subvention d'investissement de 1 500 000 euros pour la construction du collège. De plus, l'État s'est engagé à un financement dans le cadre du plan Collège Réussite et a promis de nouveaux emplois, de réduire le délai pour la signature du contrat d'association, ouvrant au subventionnement de fonctionnement prévu par la loi Debré. Il a ainsi été décidé de cofinancer avec des fonds publics la sortie de terre d'un collège privé religieux au sein d'une zone de la ville les plus sous-dotées en établissements publics. Cela sous couvert d'un objectif de mixité sociale d'origine et de confession, en collaboration avec l'établissement d'excellence des quartiers sud sous tutelle jésuite, l'École de Provence. La Libre Pensée, qui a toujours mené le combat pour la liberté de conscience qui inclut la liberté de culte, estime pour sa part que les financements publics doivent être alloués au seul enseignement public et que la seule école qui soit en mesure de rassembler, d'assurer la mixité sociale et le droit à l'instruction pour tous, d'aider la jeunesse à construire sa propre voie, c'est l'école publique laïque. Toute autre forme d'école n'a vocation qu'à favoriser le séparatisme social et à développer le communautarisme, en l'occurrence confessionnel. Ce qu'il faut construire au sein de cette zone sinistrée de Marseille, comme dans de nombreux autres lieux d'ailleurs, C'est un collège public auquel les élèves de ce quartier ont droit. La Libre Pensée propose aux organisations syndicales et aux associations de défense de l'école publique laïque un temps de rencontre selon les modalités, lieux, dates et heures à définir par les parties prenantes afin d'échanger et d'envisager ensemble, dans le respect de l'indépendance réciproque et des rôles respectifs de nos organisations, une action en commun pour la construction d'un collège public dans la zone euro-méditerranée. Donc voilà cette lettre donc, de nos amis de Marseille qui me semblait intéressante de porter à votre connaissance. Et pour terminer, avant le choix musical, je vous propose également un communiqué sur un sujet que je crois que j'ai évoqué rapidement la semaine dernière. J'avais fait état de la victoire concernant donc Euro Satori. Vous savez, ce salon présentant les armes des différents pays et auquel donc les entreprises israéliennes devaient venir présenter les armes ayant fait la démonstration de leur efficacité, notamment à Gaza, ce qui était particulièrement odieux. Donc voilà, le communiqué de presse donc, du 14 juin sur cette question-là. Victoire, les juges font droit à notre action en justice. Ils ordonnent au COGES d'interdire toute présence d'entreprises d'armement israéliennes ou affiliées et de toute délégation israélienne ou intermédiaire à Euro Satori. Le 6 juin, une coalition d'organisations, AZER, Stop Fueling, War, FPS, etc., enfin je vous les lis pas tous, il y en a toute une série, assigne en justice en référé le COGES, c'est-à-dire l'organisateur d'Euro Satori, le plus grand salon de l'armement, pour qu'ils prennent des mesures efficaces visant à empêcher les sociétés d'armement israéliennes et leurs filiales de venir vendre leur technologie, alors même que l'armée israélienne commet à Gaza des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et que la Cour internationale de justice pointe le caractère plausible d'un génocide en cours. Elle demande également que les délégations israéliennes ne puissent venir acheter des armes sur le salon du 17 au 21 juin à Villepinte, qui pourraient contribuer aux dits crimes. Cette action fait suite à une première sommation interpellative envoyée au COGES le 24 mai 2024, lui laissant 8 jours pour rendre toutes les mesures empêchant que la tenue du salon contribue à aggraver la situation d'urgence absolue en Palestine et dans les territoires occupés. Devant cette sommation, le COGES s'en réfère à son ministre des tutelles, le ministre des armées françaises, qui lui enjoint d'interdire tout stand israélien au salon le 31 mai 2024. Première victoire pour les associations qui font campagne en parallèle depuis des mois contre l'armement d'Israël. Cependant, plusieurs déclarations d'entreprises israéliennes indiquaient qu'elles allaient contourner cette interdiction en étant présentes auprès de stands d'autres entreprises et à travers des filiales ou autres entreprises affiliées. Les associations ont montré qu'au moins 7 sociétés filiales majoritairement détenues par des sociétés israéliennes étaient encore prévues sur le salon. Aussi, quand bien même les stands des entreprises d'armes israéliennes étaient réellement interdits sur le salon, le COGES permettait encore aux responsables israéliens des crimes en Palestine d'y venir assurer leurs achats d'armes étrangères des prochaines années. Il existait donc encore un grand risque de contribution aux crimes par la tenue du salon et par conséquent de violation du droit international humanitaire dont le respect était pourtant requis par les conditions générales de vente du COGES et du droit pénal français en matière de crimes internationaux. Les associations, représentées par les avocats Matteo Bonaglia et Dominique Cochin, ont demandé d'empêcher ce risque de dommages imminents et de troubles manifestement illicites au tribunal de Bobigny à travers l'assignation du 6 juin, soutenue lors d'une audience en référé le 13 juin à 9h30. Sans surprise, les avocats du COGES ont plaidé l'incompétence du tribunal et l'absence d'intérêt à agir des associations. Ils ont assuré que le plus grand salon d'armement ne permettrait en rien aux transactions commerciales et ne pouvait donc contribuer aux crimes en Palestine et qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'interdire les acheteurs israéliens sur ce salon. Les juges n'ont retenu aucun de leurs arguments et ont donné raison aux associations ordonnant l'interdiction des délégations israéliennes, de tous les intermédiaires et des entreprises israéliennes sous quelque forme qu'elles soient au salon. Ils ordonnent également l'affichage de la décision à toutes les entrées du salon. Cette décision crée un précédent important en ce qu'elle rappelle que les sociétés de droit privé telles que le COGES sont tenues de respecter le droit indépendamment des mesures prises par le pouvoir exécutif afin d'empêcher tout risque de contribuer d'une quelconque manière à de graves crimes internationaux. après la décision gouvernementale du 31 mai interdisant la présence des industriels d'armement israélien, cette décision de justice donne aussi raison à celles et ceux qui se mobilisent sans relâche depuis des mois pour le respect des droits humains en Palestine. La complémentarité des stratégies d'action avec la stratégie juridique permet d'obtenir des victoires vers un futur désirable. Fort de cette victoire, les associations requérantes et les collectifs intervenant en soutien à cette action judiciaire appellent à rejoindre le rassemblement organisé le lundi 17 juin, donc aujourd'hui, à l'ouverture d'Eurosatory à partir de 8h30 sur le parvis du parc des expositions de Villepinte contre Eurosatory et son monde pour l'arrêt immédiat de tout commerce d'armement avec Israël et au contre-salon anti-Satory, la semaine du désarmement du 16 au 21 juin à la Hairie de Montreuil. Voilà, il suit donc la liste des très nombreuses associations engagées dans cette initiative. Voilà, donc nous en arrivons maintenant au choix musical. Je vous propose aujourd'hui l'une des chansons les plus extraordinaires du XXe siècle. Nous sommes en 1939 à New York, au Café Society. Une chanteuse noire s'avance sur la scène. Les projecteurs sont focalisés sur elle, sur son visage. Elle, c'est Billie Holiday. Elle a 24 ans. Alors, elle entonne une chanson qui va faire frissonner le public. Public blanc, il faut le préciser. À la fin de la chanson, 10 secondes de silence absolu. Le public est médusé. Puis les acclamations. Les arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur les feuilles, du sang sur les racines, un corps noir se balançant dans la brise du sud, étrange fruit pendant au peuplier. Nous écoutons Billie Holiday, fruit étrange, strange fruit.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Voilà, alors je vous redonne la totalité du texte en français de cette chanson. Les arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur les feuilles, du sang sur les racines, un corps noir se balançant dans la brise du sud. Étrange fruit pendant au peuplier. Scène pastorale du vaillant sud. Les yeux exorbités et la bouche tordue. Parfum de maïolia, doux et frais. Puis une odeur soudaine de chair brûlée. Voici un fruit à picorer par les corbeaux, que la pluie fait pousser, que le vent assèche. Pourri par le soleil, il tombera de l'arbre. Voilà une étrange et amère récolte. Voilà, et je précise simplement que l'auteur et compositeur de cette chanson est Abel Miropol, enseignant juif d'origine russe, vivant dans le Bronx et membre du Parti communiste américain. Nous reviendrons dans une future chronique sur cette chanson, sur Billie Holiday et sur tous les aspects qui lient le blues, le jazz et la marche des Noirs vers la conquête des droits civiques, vers l'égalité des droits. Alors, je vous donne donc rendez-vous maintenant pour une prochaine chronique du groupe Frézélaire, lundi prochain à 11h30 sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Frézélaire de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Frézélaire lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Frézélaire sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine dès lundi 11h30.